À vos marques, un podcast proposé par Lefèvre Dalloz. Élément fondamental du patrimoine de l'entreprise, la marque doit être choisie et protégée avec soin. À partir d'exemples et d'anecdotes tirées de leur quotidien, des professionnels nous expliquent le droit des marques et secouent les idées reçues.
On sent d'ores et déjà un peu d'ébullition à la venue des JO. Et on voit déjà des communications, des marques qui commencent à faire référence aux JO. Et le comité olympique est extrêmement vigilant à ça. Et pour le moment, se contente d'adresser des mises en demeure pour faire rectifier le tir. Mais quand les JO auront commencé, le ton changera également. Donc, précaution extrême.
Steph, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Maya.
J'entre directement dans le vif du sujet parce qu'on a très envie de savoir. Alors, c'est quoi l'embauche marketing ?
L'embauche marketing, c'est une pratique qui consiste à associer son nom, son entreprise, son image à celle d'un événement, plus souvent sportif, sans l'autorisation de l'organisateur de l'événement sportif. On essaye de se mettre dans son sillage sans pour autant faire partie des sponsors ou licenciés officiels. Si les sponsors sont prêts à débourser des sommes importantes pour s'associer au nom de l'événement, c'est parce qu'ils ont une exclusivité sur ce nom-là, sur l'événement, sur la compétition. S'ils se rendent compte qu'il suffit à n'importe lequel de leurs concurrents d'utiliser l'image de l'événement sportif sans bourse déliée, à quoi bon continuer ce sponsorship ?
D'accord, donc on va y revenir, mais avant ça, moi j'aimerais bien que vous me donniez des exemples d'embauche marketing. Je précise d'ailleurs que embauche marketing, c'est pour marketing d'embuscade. Donc on aimerait bien avoir des exemples parce que c'est un peu ésotérique pour nous.
Oui, vous avez raison. Un premier qui a eu lieu en 2007, lors de la Coupe du Monde du rugby à 15, où la marque DIM de sous-vêtements a pris une dizaine de billets pour ces mannequins qu'elle a placés dans le stade, vêtus des produits de la marque et qui ont quelque peu attiré l'attention. Donc attiré l'attention bien évidemment des gens autour, mais les gens autour c'est 100-200 personnes, mais également attiré l'attention du diffuseur qui n'a pas manqué de faire des gros plans sur ces mannequins habillés avec la marque DIM. Tout ça au Stade de France, hein, je précise. Alors même que DIM n'était pas un sponsor ou une marque autorisée. On voit bien dans cet exemple que sans faire partie du programme de licence ou de sponsoring de l'événement, la marque DIM a su utiliser l'événement pour avoir une visibilité. Il y a un autre exemple que j'aime bien, c'est lors de la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud où la marque Bavaria, que je ne connaissais pas, qui a des couleurs orange, avait utilisé la même technique que DIM. Ils avaient réservé des billets sur plusieurs rangées, tout le monde habillé des couleurs de la marque, et ça au détriment de Budweiser, qui lui était un sponsor officiel. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que bien évidemment, aussi bien les mannequins de DIM que les spectateurs aux couleurs de Bavaria ont été expulsés du stade très rapidement, une fois la supercherie, si je puis me permettre, identifiée.
Mais alors, et du coup, si c'est un athlète qui arrive habillé en DIM ?
Si c'est pour la natation, pourquoi pas ? Mais il y a un cas aussi qui a fait un gros buzz, c'était pendant les Jeux Olympiques de 2012. C'est la marque Dre, avec ses casques écouteurs, qui a distribué à plusieurs athlètes des masques. C'est une marque qui a fait le buzz, donc les athlètes l'ont pris avec plaisir. Les ont bien évidemment mis sur les oreilles pour se concentrer au moment de leur préparatif. Et qui était filmé avant le départ avec des écouteurs Dre ? Bah, tout le monde. Ce qui a permis à la marque d'avoir une visibilité très forte sur certaines épreuves, alors même que rien n'était prévu, rien n'était autorisé par l'organisateur des JO.
Oui, donc dans ce cas-là, l'organisateur n'a rien pu faire. Parce que ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, c'est que c'est l'organisateur qui se charge de faire respecter les contrats qu'il conclut avec ses sponsors et avec ses licenciés. J'imagine que ça, qu'il y a une partie de ce travail-là qui se passe, qui est un travail de surveillance de l'environnement, des réseaux sociaux, d'Internet. J'imagine qu'il y a aussi une autre partie qui se passe au niveau contractuel, c'est-à-dire de verrouillage des contrats qu'il conclut avec les diffuseurs.
Oui, c'est important contractuellement d'anticiper tout ça. Si je suis l'organisateur ou un sponsor, je fais en sorte contractuellement de m'arranger avec le diffuseur pour, si ce genre d'événements se produisent, bien évidemment, de ne pas les filmer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, dans un stade, au cours d'un match de foot ou de rugby, quand il y a un spectateur nu qui court sur le terrain, il n'est plus filmé. Ça s'anticipe, c'est pareil. Si, bien évidemment, le diffuseur fait un gros plan sur des marques qui ne sont pas sponsors, ça va poser un problème. Donc, il faut obliger contractuellement tous les diffuseurs à masquer au maximum tout ce qui sort un peu de la licence ou du sponsoring officiel.
Oui, parce qu'au fond, rien ne m'empêche d'aller dans un stade voir un match habillé comme je veux, y compris en portant les couleurs d'une marque qui n'est pas sponsor de l'événement. C'est uniquement le lien entre l'organisateur et le sponsor et leurs outils contractuels qui vont réussir à me...
Et on peut même aller plus loin. On parle d'anticipation et d'envisager contractuellement comment faire en sorte que tous les acteurs jouent le jeu. On a parlé de la diffusion, mais c'est également le cas pour les panneaux d'affichage autour des enceintes sportives dans lesquelles vont avoir lieu l'événement. Si une marque sponsorise et investit à nouveau un budget conséquent pour que sa marque apparaisse dans le stade, mais que son concurrent numéro 1 a booké tous les affichages autour du stade avec sa propre marque à lui, il va avoir un petit conflit d'intérêt. Donc, bien prévoir avec les sociétés qui fournissent ces affichages en ville, autour des événements sportifs, d'avoir un droit que je pourrais qualifier de préemption, avoir ce privilège pour favoriser les sponsors de l'événement plutôt que les concurrents.
Et qui mène ces discussions ? Il y a un conseil en propriété industrielle, une cellule dédiée au sponsoring dans l'association ou l'organisme qui gère l'événement sportif et pareil chez le sponsor ?
Ça, c'est plutôt de la responsabilité de l'organisateur d'événements sportifs. Mais c'est surtout une discussion. Si, par exemple, le sponsor premium se dit « Non, c'est pas grave, je vais pas mettre du budget pour prendre des panneaux publicitaires sur les RER, TGV, trains, bus qui sont nombreux pourtant tout autour de l'enceinte », après, on ne peut pas le forcer et forcément, la place sera prise par quelqu'un d'autre. Donc tout ça, ça peut faire partie des packages de sponsoring qu'offre l'organisateur de l'événement.
Alors, imaginons que malgré toutes les précautions prises par l'organisateur de l'événement, une entreprise qui pratique l'embauche marketing arrive à ses fins et donc se retrouve visible. Quels outils a-t-on pour obtenir réparation ? Est-ce que le droit de la propriété intellectuelle fournit des outils ? Le droit de la propriété intellectuelle, le code du sport, fournissent des outils pour lutter contre cette pratique-là ?
Il y a énormément d'outils. Et effectivement, il faut tous les utiliser à plein. La difficulté sera malgré tout toujours la même. On est sur une ligne de crête et si c'est vraiment bien fait, ça sera difficile d'arriver à ses fins. Mais la première des choses, bien évidemment, et c'est ce à quoi vous pensez, c'est de déposer ces marques. Déposer les marques qui reprennent le nom de l'événement. Mais pas que le nom de l'événement. Ça peut être tous les signes distinctifs, tous les signes qui seront associés à l'événement. On les dépose à titre de marque, ce qui empêche leur reprise telle qu'elle par les tiers. C'est pas si évident parce que certains noms, notamment pour les événements sportifs, peuvent être descriptifs. Or, obtenir la protection d'un nom descriptif, c'est très compliqué. Donc, il faut arriver à créer une identité visuelle, un design qui permettra à la marque d'atteindre le seuil de distinctivité suffisant pour être enregistré. Et en plus, avoir une marque un peu plus originale que la simple description de l'événement, ça rend la marque plus forte, ça permet son identification plus facilement et ça se protège beaucoup mieux. À côté de la marque, on dépose également des dessins et modèles, s'il y a des graphismes qui sont repris, s'il y a des logos qui sont utilisés. On réserve tous les noms de domaine possibles et on met des surveillances parce que c'est bien beau d'avoir des marques et des droits de propriété intellectuelle. Si on ne surveille pas l'enregistrement de marque et la réservation de noms de domaine par des tiers qui seraient susceptibles de reprendre nos droits, on n'est pas plus avancé.
Là, on vient de faire un tour sur la propriété intellectuelle. Donc, il y a aussi le droit d'auteur.
Au même titre que le droit des marques, on utilise bien évidemment le droit d'auteur sur toutes les créations originales qui sont issues de l'événement, qui sont issues de l'organisation. On peut penser aux personnages, aux mascottes, aux chartes graphiques, à déposer également un titre de marque. Attention, hein, on parle de cumul de protection. On ne choisit pas l'un ou l'autre. L'idée, c'est de protéger, d'enregistrer tout ce qui peut l'être pour avoir un champ de protection le plus large possible. Et si ça ne suffit pas, on a toujours l'action en responsabilité civile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur la base du parasitisme, on pourra faire valoir une concurrence déloyale contre ceux qui souhaiteraient se mettre dans le sillage de l'événement. Cette notion de sillage, c'est ce qui caractérise vraiment le parasitisme. Donc si je suis DIM et que je communique sur la Coupe du Monde du rugby, bien évidemment, on pourra considérer que c'est une tentative de parasitisme.
Donc Steve, vous nous avez parlé de la propriété intellectuelle, de l'action en responsabilité. Vous m'aviez aussi parlé du monopole de l'organisateur d'événements sportifs.
C'est une spécificité du droit français qui est issue du Code du sport. C'est l'article 331.1 du Code du sport qui, pour résumer, confère un monopole à l'organisateur d'événements sportifs sur la manifestation qu'il organise. En 2008, le tribunal de grande instance indiquait clairement que ce monopole incluait toute forme d'activité économique ayant pour finalité de générer un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support n'existait pas. Autrement dit, si on considère que la raison même de votre communication, de votre buzz, c'est l'événement sportif, c'est que vous en tirez un bénéfice direct. Et vous tombez sous le coup du monopole sans autorisation, ça signifie que vous êtes contrefacteur. Contrefacteur au sens large du terme. Bon, c'est une notion qui est assez globale, assez large et qui mérite d'être précisée par la jurisprudence.
Et comment on l'applique à l'étranger ?
C'est la grande difficulté. C'est un droit qui est issu de la législation française et on ne le retrouve pas à l'étranger. Donc, quand on a ce genre de problématique d'utilisation de l'image de l'événement sans autorisation, on retombe sur des mécanismes de responsabilité civile, de concurrence déloyale et de parasitisme. Et les marques enregistrées sont bien évidemment utiles. La difficulté d'avoir des marques enregistrées, c'est qu'on ne peut pas tout couvrir. J'enregistre ma marque pour l'organisation d'événements sportifs. Ok, c'est naturel. Mais est-ce que je vais l'enregistrer pour des petites voitures ? Est-ce que je vais l'enregistrer pour des vêtements ? Est-ce que je vais l'enregistrer pour des chapeaux, pour des bijoux, pour des services d'assurance ? L'origine de l'atteinte est multiple. Donc, c'est difficile d'avoir une marque enregistrée pour tous les produits et services. Et quand bien même la marque est enregistrée pour les services qui correspondent à l'activité du contrefacteur, vous vous souvenez qu'on a cette obligation d'utiliser sa marque au cours des 5 dernières années. À défaut de quoi, notre marque risque d'être déchue pour non-exploitation réelle et sérieuse. Autrement dit, même si l'organisateur d'événements sportifs a enregistré sa marque dans le monde entier pour l'ensemble des produits et services, ce qui correspond à un budget monstre, autrement dit, ce que personne ne fait, toutes ces marques-là peuvent être attaquées en déchéance, c'est-à-dire être annulées, parce qu'elles n'ont pas été exploitées. D'où l'intérêt, quand on est l'organisateur de l'événement, qu'on a des marques enregistrées, c'est de trouver des licenciés qui pourront exploiter ces marques pour une gamme de produits et une déclinaison de services le plus large possible, pour maintenir en vigueur l'ensemble de nos marques.
Oui, donc la licence a aussi cette vertu-là, en réalité. Ça contribue à la protection de la marque.
Exactement. Mes clients sont toujours ravis quand ils trouvent des nouveaux licenciés, mais c'est une perspective développement business marketing. Moi, je suis ravi car ça me permet de sauver la vie des marques que l'on a déposées. Et ça nous donne du coup les moyens d'utiliser ces marques pour les opposer plus efficacement contre les usurpateurs.
Merci Steve. Malheureusement, le temps est presque terminé. J'avais une petite question bonus qui n'est pas tout à fait en lien avec l'embouche marketing, encore que. Mais qu'est-ce qui empêche une marque de créer, par exemple, une chaussure Jordan ou Platini sans verser d'argent et sans l'accord du joueur en question?
C'est une bonne synthèse de tout ce qu'on vient de voir. C'est une contrefaçon de marque puisque Platini ou Jordan ont des portefeuilles de marque certainement très importants et protégés. Et en plus, on rajoute des droits de la personnalité puisque ce sont des célébrités et que votre marque de chaussures qui souhaite se lancer en reprenant le nom de ces personnes constituerait une atteinte à ces droits de la personnalité.
Alors, je déroule mon idée. Si on crée une chaussure qui porte le nom d'un petit jeune sur lequel on parie et dont on se dit qu'il va monter, donc il n'est pas encore célèbre et il n'a peut-être pas encore déposé sa marque, ou par principe, dès qu'un joueur rentre dans une équipe, on dépose des marques à son nom?
C'est intéressant, ça me rappelle une jurisprudence pour dépôt frauduleux Neymar. En Europe, un tiers, un individu avait déposé la marque Neymar alors qu'il n'était pas encore en Europe. Il jouait encore au Brésil. Ce dépôt était considéré comme un dépôt frauduleux puisque Neymar avait déjà une petite célébrité, c'était déjà un joueur émergent. Donc le droit sur le nom, sur son nom patronymique, émerge à partir du moment où vous commencez vous-même à émerger. Si vous vous appelez Monsieur Durand, Monsieur Dupuis, que vous n'avez pas de visibilité, j'ai le droit de lancer une chaussure, la chaussure Durand. Il n'y aura pas de lien automatique fait entre ma chaussure et vous. À partir du moment où on peut commencer à établir ce lien, vous vous exposez à la fraude et à la perte de votre marque, voire une condamnation.
Bah écoutez, je vais vous quitter à regret parce que j'avais encore plein de questions. Je pense qu'il faut, pour le mot de la fin, qu'on dise un mot des Jeux Olympiques dont il me semble qu'ils sont régis par un régime un peu spécial.
Oui, les Jeux Olympiques ont cela de spécial qu'ils font passer des lois dans les pays qui les accueillent. Des lois qui sont extrêmement protectrices puisqu'elles permettent une protection quasi absolue des signes olympiques. Donc, on sent d'ores et déjà un peu d'ébullition à la venue des JO. Et on voit déjà des communications, des marques qui commencent à faire référence aux JO. Et le comité olympique est extrêmement vigilant à ça. Et pour le moment, se contente d'adresser des mises en demeure pour faire rectifier le tir. Mais quand les JO auront commencé, le ton changera également. Donc, extrême vigilance, on ne reprend pas Jeux Olympiques, on ne décline pas sa marque sous la forme d'Olympiade, on ne reprend pas les mascottes, on ne reprend pas tous les signes distinctifs des JO. C'est un droit vraiment spécial, hors du commun, qui est accordé aux Jeux Olympiques. Donc, précaution extrême.
Merci Steve pour ce mot de la fin. Je vous invite à écouter les épisodes précédents, tous très intéressants, qui vont de la naissance de la marque à sa cession, à la manière dont on la protège sur Internet, tous avec Steve Félix.
Un grand merci Maya, à bientôt.
À bientôt Steve.